Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce cinquième épisode de C'est du tout cuit, votre émulsion sur le web préféré se pose et prend le temps de réfléchir. Il en sera de même tous les cinq épisodes et j'accueillerai dans vos oreilles un invité pour discuter autour d'un thème en rapport avec la cuisine. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui avec mon invité a fait récemment l'actualité. On va parler des critiques et des guides gastronomiques. Une petite remarque technique avant de commencer. Je suis bien conscient que la qualité sonore n'est pas du tout ce qu'elle devrait être, l'interview ayant été réalisée par vidéoconférence. Je vous présente toutes mes excuses. Je vous promets que pour l'épisode numéro 10, la qualité sera bien meilleure. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne écoute. C'est du tout cuit, l'émulsion web. Aujourd'hui, on se penche sur l'épineuse question du critique gastronomique. Pour en parler, on prend la direction de la région de Liège pour discuter avec un journaliste, mais aussi un critique gastronomique et œnologique qui cultive son amour de la fine cuisine quand il est à la maison. Passionné de vin, œnologue diplômé et belge épicurien gourmand, la vigne est son jardin qui n'a rien de secret. Bon vivant plutôt que mauvais mort, il préfère le vin d'ici à l'au-delà. Critique gastronomique, même quand il n'est pas dans son assiette, gourmand et fin cuisinier en quête de sensations pour papilles sensibles. Il est entre autres considéré comme un des meilleurs spécialistes de l'Alsace en Belgique. Il est d'ailleurs ambassadeur de la ville de Turckheim et je l'ai appelé car il participe activement au guide de routard, mais aussi parce qu'il est juré culinaire dans divers centres de formation et autres concours culinaires. Bonjour Jacques Lemoine.
Bonjour Thomas.
Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on devient critique gastronomique?
Dans un premier temps, je pense que c'est par passion, mais c'est aussi par gourmandise, par amour de la cuisine, de la bonne cuisine, celle de l'enfant, celle qu'on a vécue dans ses familles avec ses parents ou ses grands-parents, celle que l'on a envie de partager aussi entre amis et en famille, celle qu'on a envie de faire pour les amis autour d'une belle bouteille. Par envie aussi de partager les bonnes adresses, les bons plans et les bonnes adresses de cuisine, de resto avec d'autres étudiants. C'est un peu par passion, c'est un peu tout ça réuni et c'est un ensemble de circonstances, mais je pense qu'on va les évoquer par la suite.
Oui, justement, est-ce que le métier de critique gastronomique, c'est un métier avec lequel on peut vivre pleinement?
Il y en a certains qui le font dans de grandes revues, dans de grands guides, ça peut être rémunérateur, c'est vrai. Moi, je combine ça avec une activité d'information locale, régionale et générale, sociale, politique et économique. Dans les critiques gastronomiques, oui, on peut en vivre. Il y en a qui sont, entre guillemets, sponsorisés, c'est-à-dire qui tiennent des rubriques sur Internet, des blogs ou autres sites, qui sont sponsorisés par des grosses boîtes, par des grandes surfaces, par des chaînes de grandes surfaces, par des magasins spécialisés. Il y a ceux qui ne payent pas leur addition, mais ça, je préfère ne pas trop en parler parce que c'est un sujet un peu sensible pour moi. Ceux qui se présentent dans certains restos en disant « Voilà, moi, je suis un tel, je viens pour tel guide ou pour telle revue, je ne paye pas mon addition. » Bon, voilà. C'est peut-être une économie d'argent, hein, mais par contre, derrière, pour moi, ça ne fonctionne pas de la même manière. Et puis, en ce qui me concerne, c'est de travailler pour des guides, notamment, tu l'as évoqué, les guides du routard, sur toutes les régions de France, pour travailler aussi pour des revues, pour des journaux, des maîtres des critiques. Mais ce n'est pas à travers les blogs ou à travers les sites internet que je peux gagner ma vie, c'est à travers mon travail journalistique et mon travail de rédaction écrite ou de temps en temps pour des interviews dans certains cas.
Donc, tu l'as un peu abordé dans ta réponse. Quelles sont les qualités, si on veut être des critiques gastronomiques?
J'en aurais plusieurs. Je vais essayer de les donner dans l'ordre. La première, pour moi, c'est la connaissance des produits et arriver à faire la différence entre les produits frais, les produits tout prêts ou les produits semi-préparés qui sont transformés. C'est une référence en France, mais qui pour moi n'est pas fiable, c'est ce qu'on appelle le fait maison. Fait maison, ça veut dire qu'on a des produits qui sont semi-transformés au départ et puis qu'on les arrange un petit peu à la sauce maison avec les idées du chef. Mmh. La, Deuxième qualité, c'est peut-être la primordiale pour moi aussi, c'est la connaissance de toutes les techniques de préparation, de cuisson, les techniques de, non pas de présentation ou d'association, parce que ça reste la patte du chef, ça reste la griffe du chef, mais c'est vraiment la maîtrise de ces techniques de cuisson, de ces techniques de préparation, et dans ce cadre-là, ben, je continue de suivre des cours, parce que je considère qu'il faut rester au top de toutes les techniques qui peuvent évoluer. On a eu la gamme de cuisine moléculaire avec ce qu'elle a apporté de positif ou de négatif, mais on a aussi une évolution avec toutes les formes de cuisson basse température, sous vide, basse température, etc. Donc j'essaie de suivre ça. Alors, encore d'autres qualités qui ne sont pas secondaires, c'est le fait d'avoir un palais. Il paraît que le mien est exceptionnel. Ce sont des chefs et notamment des éleveurs qui me l'ont dit au niveau gustatif. Un palais qui me permet de déceler pas mal de choses dans les préparations. Il y a encore le fait pour moi de cuisiner soi-même, alors de l'œuf sur le plat à la cuisson basse température, ou alors ou du steak, mais bien cuit, pas la semelle, jusqu'à la Saint-Jacques, ou encore jusqu'au scraille, puisqu'on est en saison pour l'instant, c'est de maîtriser toutes les cuissons à ce niveau-là et d'arriver à cuisiner soi-même. Et puis il y en a une dernière que certains n'ont pas non plus, et ça je le regrette profondément, c'est, je pense, se remettre en question sur chaque plat, chaque resto, chaque fois que l'on déguste quelque chose, un peu comme pour les vins, c'est se remettre en question parce qu'un plat n'est pas l'autre, un plat n'est pas l'autre, et il peut y avoir des choses tout à fait différentes. Voilà pour moi les quelques qualités qui sont primordiales pour arriver à faire une critique, on va dire objective, et en tous les cas, une critique qui permet d'aborder toutes les facettes de la cuisine d'un chef, d'un resto.
Donc, si je te suis, tout le monde ne peut pas être critique gastronomique.
Dans un premier temps, j'aurais tendance à dire d'emblée, si, tout le monde pourrait l'être. Mais le problème actuel, et je crois qu'on s'en rend particulièrement compte, et les chefs s'en rendent particulièrement compte à ce niveau-là, c'est que tout le monde se prend un petit peu pour top chef. Dans ce cas-là, et dans certains cas, on n'a pas la rigueur nécessaire, ou en fonction des qualités que j'ai énumérées potentiellement tout à l'heure, il y en a quand même beaucoup qui se prennent vraiment pour top chef et qui se disent qu'ils peuvent se permettre une critique. Je pense qu'il faut une capacité d'analyse et de maîtrise des techniques, une capacité de faire la part des choses. Et je crois que dans certains cas, ben, on n'y arrive pas toujours, et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des commentaires complètement décalés sur certains sites, mais je pense qu'on y reviendra ultérieurement aussi à ce niveau-là, on pourra peut-être l'évoquer.
Oui, on va en parler. Avant, pour clore un peu le chapitre plus personnel, est-ce que tu as une anecdote particulière à raconter au sujet justement de ton travail gastronomique, enfin de critique gastronomique, pardon?
Oui, j'en ai plusieurs. Il y en a quelques-unes qui sont assez marquantes. Peut-être la plus amusante, pour moi, celle qui est presque une des plus amusantes, c'est sortir d'un resto quelque part dans le sud de la France et entendre dire par le chef que si je n'étais pas belge, ben, je pourrais passer pour être un critique gastronomique de Chachette ou du Guide du Routard.
Alors que tu travaillais pour le guide, c'est
Oui,
ça?
et j'étais là en visite pour une nouvelle adresse chez lui en disant, ben, voilà. Mais comme on ne se présente pas, comme ça se fait de manière anonyme, ben voilà, je suis sorti, j'étais belge et je n'étais pas censé faire de critique pour le Guide du Routard. Ça, c'était très amusant. Dans les anecdotes un peu moins positives, c'est une adresse que je revisite en Bretagne. C'est une crêperie. Alors, les crêperies en Bretagne, c'est un petit peu les baraques à frites chez nous.
Oui.
Il y en a tous les coins de rue et de temps en temps, ben, il y en a des bonnes et il y a des moins bonnes. C'est une crêperie pour laquelle on a un petit souci, on a une plainte de qualité de produit. Et donc, je suis allé visiter, puisque c'est une priorité dans les visites que l'on effectue, notamment pour le guide de routard. Et c'est un peu vicieux, parce qu'en plein mois de juillet, j'ai demandé une crêpe à la Diepoise. Alors, à la Diepoise, c'est avec des crevettes, avec des Saint-Jacques, avec une sauce blanche, des champignons, etc. Et on m'a assuré que les Saint-Jacques étaient fraîches. Or, au mois de juillet, il n'y a pas de Saint-Jacques fraîche. On peut avoir
D'accord.
des pétanques. Et donc, j'ai vu arriver mon assiette. Et après la deuxième ou troisième bouchée, ben, dans un coin, alors que la sauce me paraissait déjà un petit peu bizarre, mais dans un coin de mon assiette, j'ai trouvé l'angle du sachet de congélation
Ah.
qu'on avait ouvert. et avec une sauce qui avait été en fait réalisée au xanthan, qui est en fait un émulsifiant qui va permettre de donner de la consistance un petit peu plum pudding à la sauce, c'est-à-dire que si on la fait bouger, elle balance encore pendant 10 minutes, un quart d'heure, c'est à peu près ça, quoi. C'est une consistance très gélatineuse. Donc ça, c'est évidemment une anecdote négative. Et pour la compléter, c'était très amusant, c'est qu'en sortant, il y avait une brave voisine de 83 ou 84 ans qui était assise sur le banc à côté du resto et qui me dit, vous êtes allé manger là? Ben, je dis, oui, madame, j'étais un peu contraint et forcé d'y aller. Et elle me dit, elle continue, elle me dit, mais c'est pas bon, hein? Ah, je dis, vous confirmez que c'est pas bon. Là, je peux vous l'assurer.
on en a parlé, hein. Enfin, tu en as parlé dans ta réponse, dans une de tes réponses. Il y a certains professionnels de la restauration qui critiquent les plateformes d'avis en ligne, genre TripAdvisor ou La Fourchette. Voilà, tu dois avoir un avis tranché là-dessus, mais j'aimerais bien t'entendre à ce sujet.
Je ne connais pas très bien le site La Fourchette, je l'ai déjà consulté, mais sans plus. Le site TripAdvisor, pour moi, il fait partie des sites que je ne consulte pas, parce que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, en effet, mon avis est vraiment négatif. Tout le monde, et c'est un petit peu le problème, tout le monde peut surfer, tout le monde surfe sur cette vague des émissions culinaires, et je dirais, j'aurais tendance à dire de Top Chef à Top Gun, parce qu'on dégaine pour un commentaire et on sort un petit peu tout et n'importe quoi sans avoir nécessairement les conséquences. Il y a aussi une partie dérive complète au niveau de ces sites, et notamment de TripAdvisor. J'ai déjà assisté à des choses en étant sur place dans les restos qui sont vraiment aberrantes. Il y a l'achat d'avis. Donc, un restaurateur peut très bien acheter des avis positifs à des sociétés pour son restaurant et en disant, voilà, j'aligne, je ne sais pas, 1000 ou 1500 euros, mais je veux 10 commentaires positifs concernant mon resto. Ça va me faire remonter la moyenne et je veux entre 4 et 5, ou si possible 5 de cotation. On peut évidemment faire l'inverse et c'est le côté, pour moi, dérive complète, c'est le côté négatif. C'est moi qui demande pour qu'on fasse des commentaires négatifs sur un concurrent qui me fait peut-être un petit peu d'ombre ou qui a une meilleure réputation que moi et je veux le dépasser. Et donc, bah, pour le dépasser, le seul moyen, c'est éventuellement que lui régresse. Et ça ne me va pas du tout. Ça, je déteste profondément.
C'est du tout cuit, l'émulsion web.
Justement, on parlait un peu des critiques gastronomiques de renom et début d'année, il y a eu une grande polémique au sujet du guide Michelin et de l'auberge du Pont de Colombes, donc qui est le restaurant de Paul Bocuse. Pour nos auditeurs, c'est Paul Bocuse, c'est un des plus grands chefs du XXe siècle et il est décédé en 2018. Et donc toute son équipe, enfin l'équipe du restaurant restait en place et en fait ils ont perdu une étoile, donc ils sont passés de 3 à 2 étoiles au guide Michelin. Et voilà, donc il y a deux catégories de personnes suite à ça. Il y a une catégorie de personnes qui ont dit qu'il fallait créer une sorte de classe d'intouchables par les guides et par les critiques, où c'est des institutions donc on ne peut pas y toucher. Et d'autres qui disent que le système des étoiles chez Michelin sanctionne le travail de l'équipe en place et donc rien n'est immuable, ce qui garantit un peu une équitabilité, pardon, pour tous les restaurants en fait. Quel est ton avis, toi, en tant que critique sur est-ce qu'une critique c'est vraiment équitable? Et alors cette polémique bien précise du guide Michelin, tout le monde a un peu son avis là-dessus, mais j'aimerais bien t'entendre.
Écoute, je vais te citer un exemple et d'illustrer ça. C'est un exemple que j'ai vécu dans un restaurant en Alsace il y a pas mal d'années. C'est un restaurant qui est étoilé, qui a une étoile. Le papa arrive à l'heure de la retraite et le fils a repris déjà depuis 6 ans, mais le père est toujours là. C'est à lui qui a été attribué l'étoile, mais le père est toujours là. Et pendant 6 ans, bah, il va accompagner son fils, il est présent en cuisine, il regarde un petit peu, voilà, il surveille, quoi. Il supervise l'ensemble du travail du resto. L'étoile reste jusqu'à son décès. Et puis, à son décès, que se passe-t-il? Ben, le resto perd l'étoile. En fait, ce qui n'est pas logique à ce niveau-là, c'est que précisément, pendant 6 ans, c'est le fils qui a assuré en cuisine, qui a créé de nouveaux plats, qui a gardé la grande carte classique de son père, qui a continué, mais la perte de l'étoile a entraîné à terme la fermeture et la faillite du resto.
Ah, carrément.
Ah oui, alors que la carte n'avait pas changé. Il y a eu simplement un décès, la carte ne change pas, la qualité ne change pas, au contraire, elle est même relevée, elle est haussée par le fils, mais on ferme. Et pour moi, il y a encore un exemple important. Dès qu'il débilise certains guides, dont Michelin dans ce cas-ci, c'est un commentaire qui est passé il y a, je pense, maintenant 4-5 ans, peut-être même un petit peu plus. C'était un commentaire sur un resto belge qui n'était pas encore ouvert. Donc, ce qui est complètement illogique, un resto dont on ne connaît pas encore la cuisine.
Ok. Alors, toute dernière question. Donc, c'est une question que je vais poser à chaque invité que je vais avoir au bout du fil ou en direct quand on pourra enfin sortir de chez nous un peu plus et se rencontrer. Est-ce que tu as une recette fétiche que tu voudrais partager avec nos oreilles affamées?
Je dois vous mettre l'eau à la bouche et ne pas pouvoir y accéder, c'est à peu près ça, quoi.
Voilà, c'est ça.
Allez, deux, parce que une, ça va être trop court. Des Saint-Jacques bardés, donc la note Saint-Jacques est bardée avec donc, un bon jambon de pays. Alors, c'est type jambon de Parme, type jambon fumé, éventuellement d'Ardennes. On barde la note Saint-Jacques et on essaie de la barder, si possible, la veille. Et puis, ben, on la cuit simplement à la poêle. Juste snacker à la poêle. Elle aura pris le goût fumé un petit peu du jambon. Et si on veut s'amuser, il y a moyen de l'accompagner de plusieurs choses au niveau des sauces. Moi, j'adore faire des espumas. C'est vrai que c'est au siphon, mais c'est un espuma de crème fraîche dans laquelle j'ai laissé macérer pendant 24 heures du lard fumé cuit. Et donc, je mets le tout dans le siphon et au moment de servir, ben, un petit coup d'espuma, une petite barre de lard fumé grillé, et ça peut être très amusant. Et puis une deuxième qui est encore un petit peu de saison pour l'instant, dans s'amuser, puisque les morilles sont en train de sortir un peu tout côté, c'est une classique volaille aux morilles. Alors ça peut être une poularde, ça peut être un chapon, mais on a d'excellents produits fermiers chez de nombreux petits producteurs en Wallonie, notamment. Il y a d'excellents produits fermiers, donc une belle volaille fermière aux morilles et aux châtaignes. On est un peu sorti de la saison, mais enfin, on en trouve pratiquement toute l'année et c'est vrai qu'elles sont sous vide. Mais ça peut être super avec ce qui est mon dada, un grand vin du Jura, si possible un vin jaune, mais un Bourgogne un peu âgé, ça peut très très bien fonctionner aussi dessus. Voilà, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, mais alors sinon les recettes, là, je peux vous en donner pour le reste de la journée.
Ah, ben c'est déjà super, franchement, comme ça. Bon, en tout cas, tu m'as donné faim. Est-ce
Très bien,
que tu as...
c'était le but.
Voilà, une dernière question. Quoi de prévu pour la fin du confinement au niveau cuisine et au niveau critique?
Ben d'abord, la fin du confinement, ça va signifier aussi qu'on va pouvoir repartir dans les voyages pour les guides du routard, parce que là, pour l'instant, on est à l'arrêt complet. Avant ça, je pense qu'il faut que tout le monde prenne soin de soi, prenne soin des autres, ne prenne pas de risques, et on en profitera d'autant plus. Ça ne sert à rien d'aller nous faire un barbecue maintenant à 20 personnes et de risquer de contaminer tout le monde. Alors, restons encore un petit peu chez nous, patientons un petit peu, et puis ben, on se rattrapera après. Il y a toujours bien une bonne bouteille à trouver, il y a toujours une bonne recette à faire. Même pour un barbecue, il y a plein d'idées originales à faire pour des barbecues.
Ah ben voilà, je pense que c'est le mot de la fin. Jacques Lemoine, un très grand merci pour cette première participation à ces épisodes spéciaux de C'est du tout cuit. Je pense que tu as encore plein de trucs à dire, donc on se reverra très vite, enfin on se reparlera très vite.
Avec grand plaisir, de toute façon, il y a plein de choses à dire sur la cuisine. Moi, j'ai envie de dire plein de choses parce que c'est une vraie passion, comme la passion des vins. C'est vraiment l'expression d'une passion et surtout l'envie de transmettre une passion, tant de la cuisine que des vins, que de la gastronomie, que des associations vins et plats.
Un grand merci, Jacques.
Voilà le mot de la fin avec, non pas la FIN, mais FIM, je pense. Ça donne l'eau à la bouche à tout le monde. Je vais finir par avoir faim aussi.
Voilà. Je pense qu'on va faire un épisode sur le vin où on se reparlera parce que
Avec grand
tu es
plaisir,
une
Thomas, de
source
toute façon.
d'inspiration continue.
Voilà. Grand merci à toi, Thomas.
Voilà. À bientôt.
À bientôt, merci.
Voilà qui termine ce cinquième épisode de C'est du tout cuit. Alors j'espère qu'il vous a plu. Jacques et moi, on s'est en tout cas beaucoup amusé à le faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Le prochain épisode, on retourne à la formule classique avec une recette. D'ici là, vivez bien, écoutez bien, mangez bien. Ciao!